100% d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, ces jours d'élections locales, ce jeudi au Royaume-Uni et le séisme politique pourrait venir d'Irlande du Nord. Les Nord-Irlandais élisent leurs députés au Parlement de Stormont. Les républicains du Sinn Féin qui veulent la réunification avec la République d'Irlande pourraient l'emporter sur les unionistes du DUP. Tous les sondages vont dans ce sens. Ce serait historique 24 ans après l'accord du vendredi 5 qui a mis fin aux troubles en 1998. Pour les jeunes militants républicains, aujourd'hui, la réunification n'est plus qu'une question de temps. Reportage dans le comté de Newry avec Laura Taouchanoff.
Nous sommes dans un petit village rural des montagnes de Mourne. Ici, on vit surtout de l'élevage et on vote traditionnellement pour le SDLP, le Parti travailliste. Mais le Sinn Féin a grappillé des voix ces dernières années.
Allez, c'est bientôt fini.
C'est la dernière journée de porte-à-porte pour Michael et Tiarna, avant de reprendre les révisions pour leur partiel de droit.
S'il n'y a personne, on ne peut rien faire de plus.
Ces deux jeunes républicains de 21 ans n'ont pas eu beaucoup de monde à convaincre.
Ça fait 6 semaines qu'on fait ça. On a entendu les préoccupations des gens. Ils veulent du changement, pas de ce statu quo. C'est assez surprenant. On a parlé à des personnes qui votent depuis toujours pour les travaillistes et qui pensent voter pour le Sinn Féin pour la première fois. Rien que ça, c'est énorme. Les familles cogitent en ce moment. Je pense que le changement est là. Les gens sont lassés de la situation depuis des années.
On vient s'assurer que vous êtes prêt pour l'élection.
Je vais évidemment voter pour le Sinn Féin. Je n'ai pas peur du résultat, mais de la réaction des autres partis. Est-ce que le gouvernement va encore s'effondrer s'ils sont mécontents? Parce qu'un jour, il y aura ce référendum sur la réunification. Mon copain vit à la frontière, et c'est qu'une question de temps, on le sait tous.
Les endroits comme ici ont changé. L'Irlande rurale n'aurait jamais été aussi républicaine avant. C'est super. C'est notre seul moyen de revenir dans l'Union européenne. On n'a jamais pu en débattre avant et c'est un peu notre rêve républicain. Je suis né en 99 et on est tous nés après l'accord du Vendredi Saint. On n'a pas connu le conflit, on l'a découvert dans les livres. Pour nous, cette division importe peu. On se promène avec des maillots de foot gaélique, on n'a jamais été arrêté à des checkpoints. Cette frontière ne veut rien dire pour nous. Il y a toute une nouvelle génération d'électeurs là qui n'a pas connu les troubles.
Selon un récent sondage, l'idée d'une Irlande réunifiée séduirait plus de la moitié de la population en Irlande du Nord. Un référendum pourrait donc faire basculer l'avenir du pays. Voilà pourquoi il faudra absolument le préparer et ne pas se précipiter, souligne Tiarna.
Le Brexit est l'exemple parfait d'un sondage précipité et ils ont échoué. Alors il faudra anticiper ce référendum. Et c'est ce que le Sinn Féin veut, une assemblée citoyenne pour s'assurer qu'il y ait un plan d'action.
La réunification est sur toutes les lèvres du côté des militants. Mais le Sinn Féin, lui, a mené une campagne plutôt tempérée sur la question. Jamie Poe, enseignant en sciences politiques à l'université Queen's de Belfast, nous explique pourquoi.
Ils ne veulent pas effrayer des électeurs qui se diraient « on a eu les effets du Brexit, puis de l'instabilité, alors le temps est venu pour un peu de calme avant de nouvelles discussions ». La menace d'un référendum imminent pourrait donner un bon argument aux unionistes du DUP qui récupéreraient ces voix. Alors en restant plutôt silencieux à propos de la réunification, le Sinn Féin peut remporter la première place comme le suggèrent les sondages. Top position that the poll
suggests it's on. Le dépouillement prendra du temps, il faudra attendre samedi après-midi au moins pour savoir quelle direction va prendre l'Irlande du Nord ces prochaines années.
La Suède votera dans 4 mois pour les élections législatives avec une campagne déjà dominée par la question de l'insécurité et des images qui ont fait le tour du monde au moment du week-end de Pâques. Des voitures de police en feu, des policiers blessés par les émeutiers, des violences provoquées par la venue dans le pays de l'extrémiste danois Rasmus Paludan. Sa spécialité, c'est brûler le Coran dans les banlieues. La police qui lui avait donné une autorisation est désormais très critiquée. Anne-Françoise Hiver à Malmö.
300 policiers au moins ont été blessés au cours des émeutes à Linköping, Norrköping, Rinkeby, Örebro, Landskrona et Malmö, les 6 étapes de la tournée de Rasmus Paludan en Suède mi-avril. Mission réussie donc pour l'extrémiste danois, dont l'objectif, quand il brûle le Coran, est de susciter des violences et de montrer ce qu'il considère comme l'échec de l'intégration des musulmans. Mais en Suède, le débat fait rage. Fallait-il lui permettre de commettre son auto-da-fé dans des quartiers qu'on sait sensibles, où une simple étincelle peut mettre le feu aux poudres ? En charge de gérer les autorisations, la police a estimé que le principe de la liberté d'expression était en jeu. Bannir Rasmus Paludan aurait pu créer un dangereux précédent. Autre sujet de controverse, le fait que les autorités suédoises n'aient pas anticipé les débordements et que les policiers sans renfort se soient retrouvés rapidement dépassés, avec un résultat dévastateur puisque nombre d'entre eux ont été blessés et que les images d'une violence rare donnent l'impression que les forces de l'ordre ont totalement perdu le contrôle. D'où les critiques qui visent depuis la direction de la police, mais aussi le ministère de l'Intérieur, deux institutions qui ont reconnu n'avoir pas été suffisamment préparées. Une polémique que la leader du Parti chrétien-démocrate ne s'est pas privée d'alimenter en se livrant à une surenchère désormais habituelle à 4 mois des élections législatives, alors que la question de l'insécurité devrait dominer la campagne. Dans une interview à la radio le 25 avril, Ebba Busch a regretté que les policiers n'aient pas tiré sur les émeutiers. Pour sa part, Rasmus Paludan, qui compte présenter une liste aux élections, s'est vu refuser le droit de venir brûler le Coran dans plusieurs villes suédoises le week-end dernier pour cause de menaces à l'ordre public.
La paisible Islande secouée par des violences inédites. Le pays le plus sûr du monde, d'après l'indice mondial pour la paix, a été perturbé ces derniers mois par plusieurs fusillades et attaques à l'arme blanche. Des actes liés, selon la police, à des bandes criminelles. Reportage dans un pays calme d'ordinaire avec notre correspondant à Reykjavik, Jérémy Richard.
Il y a 2 mois, 2 conflits personnels sur fond de trafic de drogue entre individus connus de la police ont donné lieu à des tirs à 48 heures d'intervalle jusque dans le centre-ville de la capitale Reykjavik. Par chance, personne n'a été tué, mais cela porte à 4 le nombre de fusillades depuis février 2021 où un homme avait été abattu devant son domicile. Des événements qui ont fait la une des médias locaux et particulièrement troublé les Islandais, pas du tout habitués à ce type de criminalité. Helgi Gunnlaugsson est sociologue.
Une arme à feu pour les Islandais symbolise le sport ou la chasse, mais dans l'esprit collectif, c'est presque extraterrestre d'utiliser une arme pour se protéger ou encore mettre quelqu'un en joue. Donc, quand on voit quelque chose comme ça se produire avec des gens allant jusqu'à appuyer sur la gâchette, c'est très inquiétant parce que c'est rare dans l'histoire islandaise.
Seuls 4 homicides par arme à feu ont eu lieu en Islande depuis le début des années 2000, mais les agressions violentes sont en hausse, en témoignent plusieurs attaques à l'arme blanche ces derniers mois. Il pourrait s'agir d'une nouvelle réalité pour la criminologue Margrét Valdimarsdóttir.
Les groupes criminels en Islande sont de plus en plus organisés. Ils ont plus de liens avec des groupes internationaux que ce que nous observions auparavant, ce qui peut être un défi pour nos forces de police.
Car contrairement à la France, la police islandaise est parmi les rares au monde à ne pas être armée. Si la présence d'armes à feu ou d'armes blanches est signalée lors d'un appel au 112, le numéro d'urgence unique en Islande, c'est l'unité d'élite qui se déplace. Cet équivalent du GIGN ou du RAID est surentraîné et lourdement équipé en permanence. Ces missions ont été multipliées par 4 depuis 2014, une évolution qui ne surprend pas le commissaire Runolfur Thoralsson.
On a coutume de dire qu'il faut 5 à 10 ans pour voir émerger en Islande ce que l'on observe ailleurs en Europe dans le monde du crime. Des indications démontrent que les criminels islandais sont moins hésitants à utiliser des armes, plus des couteaux d'ailleurs que des armes à feu. Évidemment, cela nous préoccupe.
Pour autant, l'armement de toutes les forces de l'ordre du pays ne fait pas débat. Fjölnir Simonsson, le président du syndicat national, voudrait plutôt plus de moyens pour sa police, la plus petite d'Europe en proportion de sa population, juste derrière la Finlande.
Nous n'avons pas assez de policiers, nous en demandons donc davantage. Nous sommes si peu nombreux qu'une partie des effectifs est composée uniquement de policiers qui n'ont pas terminé l'académie. Ces officiers ne sont pas préparés et ils n'ont pas eu la formation nécessaire pour réagir dans plusieurs cas de figure.
Si l'Islande est confrontée à une recrudescence des actes violents auxquels elle est plus habituée dans les récits fictifs de ses célèbres romans policiers que dans la vie réelle, le pays n'en reste pas moins sûr pour la criminologue Margrét Valdimarsdóttir.
C'est important de noter que l'Islande est toujours un pays qui a un taux de criminalité extrêmement faible. Nous sommes toujours en tête de l'indice mondial de la paix. Les taux d'homicide n'ont pas augmenté et les tentatives d'homicide non plus.
Selon les dernières données OCDE disponibles, le taux d'homicide en Islande est de 0,3 pour 100 000 habitants. Seuls le Japon, le Luxembourg et le Royaume-Uni font mieux.
Wydaje mi się, że mamy drobny kłopot natury wizerunkowej związany ze sprawą niejakiego Grzegorza Przemyka.
Pour son deuxième film, le réalisateur polonais Jan Matuszynski revient sur une affaire d'État. Dans son film Varsovie 83, qui sort cette semaine sur les écrans français, lui est né en 1984. C'est une Pologne qu'il n'a pas connue, mais qui résonne encore dans le monde d'aujourd'hui. Nous sommes en 1983. Le général Jaruzelski dirige le pays d'une main de fer après avoir interdit le syndicat Solidarność. Varsovie 83 raconte une bavure policière, la mort d'un jeune homme qui se trouve être le fils d'une opposante et les services secrets qui essaient d'étouffer l'affaire. Frédéric Lebel a vu le film et rencontré son réalisateur.
« Ne jamais se fier à la version officielle », nous dit le réalisateur. Surtout lorsqu'on est en 1983, dans une Pologne dirigée d'une main de fer par le général Jaruzelski, qui autorise les arrestations arbitraires de ses opposants et des membres du syndicat Solidarność, voire même leur élimination. L'histoire, la vraie, est plus complexe. Celle de Grzegorz Przemyk est aussi dramatique. Ce fils d'une grande opposante au régime et poétesse est arrêté un jour de mai 83 pour un banal contrôle d'identité. Battu au commissariat, il n'en ressortira pas vivant. Un héros disparaît, un autre fait front, son meilleur ami Jurek, qui devient le héros du film de Jan Matuszynski.
Jurek a été le témoin d'événements qu'il n'aurait jamais dû voir. Et c'est là que l'affaire est devenue politique, car le gouvernement de l'époque a tout fait pour étouffer l'affaire. Des centaines d'agents des services secrets ont été mobilisés pour suivre le moindre mouvement de Jurek et le persuader de ne pas témoigner devant le tribunal, de ne pas raconter ce qui s'était passé au commissariat, pour que la vérité n'éclate jamais au grand jour.
Dans l'histoire avec un grand H, le procès aboutira à la condamnation de deux lampistes. Les services secrets ne seront pas inquiétés. La manipulation d'État a été révélée après la chute du communisme par un journaliste qui a eu accès aux archives nationales. Son livre a servi de base au scénario. Faut-il voir dans cette affaire des ressemblances avec la situation actuelle en Pologne où la liberté de la justice est remise en cause? Le réalisateur choisit la prudence.
C'est présent dans le film, mais il faut aussi ajouter le contexte de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, en Russie, on peut être condamné à 15 ans de prison pour avoir dit la vérité. C'est ce qui donne encore plus d'importance au film aujourd'hui.
L'état de droit bafoué en Pologne, en Hongrie, en Russie, mais aussi ailleurs, Jan Matuszynski évoque aussi l'affaire George Floyd, ce citoyen noir américain battu à mort par la police.
Je crois que j'étais surtout motivé par la peur que ce genre de situation puisse se reproduire. Quand j'ai lu ce livre pour la première fois, qui raconte une histoire qui s'est passée avant même que je sois né, je me suis rendu compte que ce mécanisme de manipulation et cette volonté d'étouffer les affaires étaient toujours d'actualité. On pourrait assister au aujourd'hui, tout près d'ici, au même scandale d'État.
Porté par des acteurs tout en finesse, le scénario met à jour les grossiers mensonges d'un pouvoir qui ne cherche que sa survie. La vérité, c'est aussi celle du grain du film, tourné majoritairement en 16
mm.
Je trouve que dès qu'on peut tourner sur pellicule, il faut militer pour ça. Très vite, je me suis dit qu'utiliser la technologie de l'époque, ça avait beaucoup de sens, pour se rapprocher au plus de l'esthétique des années 80. Pour des raisons de post-production, il a fallu faire des concessions. Du coup, 60% du film est tourné en 16 mm et le reste en numérique, mais avec des filtres adaptés. Peut-être que c'est d'ailleurs mon dernier film en 16 mm. Après, ça ne sera sans doute plus possible.
Tourner sur pellicule impose aussi une précision que n'exige pas le numérique et ses multiples prises.
Accent d'Europe, on retrouve Alice Roujat pour C'est mon Europe. Bonjour Alice.
Bonjour.
L'Union européenne est souvent victime de désamour. On lui reproche d'être trop technocratique, éloignée du quotidien de ses 447 millions de citoyens. Et il faut le dire, son fonctionnement est complexe, nécessite un peu de maîtrise des institutions. Enfin, les choses vont peut-être changer grâce à la conférence sur l'avenir de l'Europe, cet exercice inédit de démocratie participative qui vient de publier ses 325 propositions pour l'Europe de demain. Alors, C'est mon Europe sur RFI, c'est la chronique de la jeunesse européenne. Est-ce que vous pouvez me dire, Alice, ce que ça a à voir avec la conférence sur l'avenir de l'Europe ?
Eh bien, ça a à voir qu'au milieu de cet exercice citoyen, on a voulu donner la parole aux jeunes. Ça paraît logique, hein, si on veut tracer les contours de l'Europe de demain, il vaut mieux le faire avec ceux qui en seront encore les citoyens. Parce qu'en 2019, la moyenne d'âge des eurodéputés, c'était 50 ans et seuls 3 des 705 représentants du Parlement avaient 25 ans. Donc là, l'idée, c'était de constituer des panels citoyens vraiment représentatifs de la société. Dans les 27 États membres, on a tiré au sort, ou admis après inscription en ligne, des participants dont plus d'un tiers avaient entre 16 et 25 ans. Mais bon, même si des jeunes des milieux ruraux ou des quartiers populaires ont pu être sondés, de banlieues de Paris comme de Dublin, l'exercice démocratique est quand même resté sous les radars. Hein. Les panels ont surtout attiré des jeunes déjà politisés ou soucieux d'Europe.
Et on a aussi permis aux jeunes de s'exprimer via une plateforme en ligne.
Le site Parole aux jeunes a été ouvert en parallèle en mai de l'année dernière pour le Jour de l'Europe, le 9 mai donc, si vous voulez le retenir. Plus de 50 000 personnes âgées de 15 à 35 ans ont pu répondre à cette question posée dans 24 langues. Quelles sont vos priorités pour l'Europe de demain ? 50 000, c'est bien, mais c'est peu. Et c'est à l'image de l'implication des jeunes dans le processus européen, même si aux dernières élections européennes, la participation des jeunes était en hausse, notamment en Belgique et en Allemagne, pays moteur de l'UE. En moyenne, à peine un jeune sur deux s'était déplacé pour voter. Au Portugal, le taux de participation s'élevait à 30% et en Slovaquie à 23%.
Alice, revenons-en à ces 325 propositions. Comment est-ce que nos jeunes envisagent l'Europe du futur ?
Alors déjà, pour bien comprendre, tous ces jeunes citoyens ont travaillé dans des groupes par thématique et en plusieurs rounds de sessions plénières. Impossible donc de dire si les propositions sont uniquement celles de la jeunesse. Globalement, ce qui est ressorti de ces travaux, c'est l'idée d'une Europe plus forte et plus active dans la transition climatique, la santé et le social, avec des mesures comme l'orientation des subventions de la PAC vers l'agriculture biologique, l'établissement de normes minimales communes en matière de soins, le fait de voter aux élections européennes dès 16 ans, ou l'instauration de moments de démocratie participative, exactement comme cette conférence.
Mais si ces propositions sont acceptées, elles nécessiteront une refonte des traités européens.
Oui, clairement, pour beaucoup des citoyens sondés, ce qui fait que l'Europe semble si loin de ses habitants, c'est parce que les décisions sont compliquées à prendre et qu'elles peuvent mettre du temps à se concrétiser en loi nationale. Mais cet exercice a peut-être ouvert une brèche. Ce week-end, pile quand tombaient les propositions émanant de la conférence, le Parlement européen a demandé une révision des traités pour lui donner plus de pouvoir et d'indépendance par rapport à la Commission. Comme quoi, on a toujours besoin d'idées neuves.
Merci Alice, à la semaine prochaine. Accent d'Europe à la réalisation. Donatien Cahu, le podcast de l'émission est disponible sur RFI.fr ou sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez bien sûr vous abonner. À bientôt.